ce concept de laisser venir, je trouve pertinent pour un tas de raisons qui sont déjà abordées. Et puis, je me dis aussi que, parce que j'avais la chance d'entendre Juliane et Véronique avant, je peux laisser advenir les choses. Et dans ce sens-là, je peux improviser ce que m'a bien. Je voudrais commencer parce que aussi l'idée c'est de donner un regard sur l'enfant et ça implique aussi comment est-ce que l'enfant regarde son monde et comment il peut le construire, représenter et tout ça. Alors j'étais assez inspiré par d'abord c'était le deuxième film de Juliana Dubin. Et j'ai dit, c'est OK. Bon, je vais utiliser ça comme point de départ. Si je peux. Je vais. Ça va être assez approximatif parce que j'ai pas visionné ça avant non plus, mais j'imagine que ce que fait une bébé en général, pour qu'il puisse comprendre son monde et ses relations avec les gens et ses mondes et tout ça. Pour lui, effectivement, tout ce qui se passe à cet âge-là, certainement, peut-être pour toujours en fait, c'est comme un grand sur les lumières, un spectacle. Et il faut imaginer ça comme ça. Il faut aussi être reconnaissant du fait que les bébés sont super doués, ils font en fait, ils sont faits pour reconnaître les patterns et surtout les patterns temporels et surtout les séquences des patterns temporels. Et puis, avec quelques principes qui sont innés déjà là, sur ça, il faut qu'on peut faire des constructions imaginatives de ce qui se passe. Quand j'ai regardé cette bain qui était beau, j'ai pensé que ça peut être à peu près comme ceci pour le bébé. Est-ce que j'ai fait ça? Je commence avec les activités de nurse. Disons que. Est-ce que vous pouvez voir ça derrière? Disons que c'était comme ça, où elle fait quelque chose. Puis, ce qu'elle a fait très souvent, après un bout d'une activité, elle a mis sa main sur la poitrine du bébé. Il y avait un autre moment où elle a mis sa main ici, mais plutôt c'était ici. C'était remarquable comme elle a toujours revenu à ça. C'était comme une pause, c'était comme un refrain dans la musique, où les choses sont remises à zéro pour reprendre une autre allure après. Alors, elle mit la main. Là, ça c'est le posé du main, qui en fait veut dire probablement qu'il y aura un changement après. Alors maintenant, disons, elle fait la même chose, parce qu'elle n'a pas fini avec cet acte de soin. Mais maintenant, disons, c'est un peu plus rapide comme ça. Pendant qu'elle part, qu'elle fait ça, il y a la musique de sa voix, qui est presque toujours là, qui est toute une autre ligne mélodique comme ça, avec des tout petites pause, pas beaucoup, ça continue. Puis, il y avait des moments quand elle a mis sa main et le changement, en fait, c'était parce que il y avait une sorte d'invitation chez l'enfant pour une petite bout de regard mutuel ou quelque chose de social. Hein? Qui tout à coup a sorti là, souvent ça a commencé en parallèle avec la main posée. Ça veut dire que la main était posée et en même temps la nurse a fait comme ça, tel qu'il y a deux choses à la fois, en fait il y a un tas de choses à la fois. Une sorte de petite boucle de socialisation. Puis ils ont maintenant commencé toute une autre activité, maintenant celui-là. Et puis une autre pose de main, et puis l'autre petit bout de socialisation entre les deux.
Ok.
Puis, il y a, ça c'est effectivement des choses comme ça. Je suis en train, comme vous voulez voir, de composer une symphonie. Mm. Hein? C'est la musique. Imaginez que ça c'est notre bar, etc. Puis, ce qui se passe, c'est qu'au même moment qu'il y a tout ça qui arrive, il y a l'éveil et le niveau d'activation du bébé qui est incroyablement changeant pendant toute cette période, et c'est maximum là. Alors, on a une sorte de... Et en fait, une des questions par rapport qui invite qui interfère, etc., c'est en fait, qui a commencé ça? Est-ce que c'était un certain éveil du bébé qui était signalé, et c'était grâce à ça que le nurse a commencé cette petite boucle de... Ça, on ne sait pas, parce que le bébé était déjà signalé par le nurse avec le posé de main, qu'on est prêt de faire quelque chose d'autre. Puis, il y a aussi un mouvement général du bien-être du bébé, quelque chose complètement palpable par tout le monde, n'importe quel âge. Je ne vais pas faire ça. C'est mieux à la fin, en tout cas. OK. Maintenant, on a l'autre monde dont Véronique a beaucoup parlé, qui est le monde de l'identification, introjection, résonance, etc. Parce qu'elle a beaucoup parlé de comment cette bébé-là, avec la mère, dans toute cette situation où la mère était gelée, et a pris la même tonicité et tout ça. Nous savons maintenant c'est fort probable que les bébés sont pour la plupart du temps sous la capture des actes des autres. Ils ont un système nerveux qui, en fait, réagit tout le temps de ce que fait l'autre, et dans une manière relativement spécifique. Il y a quelque chose d'assez magique, j'étais tellement content de trouver, qui s'appelle les neurones miroirs. Et maintenant, on sait. Ce qui se passe, c'est le suivant, que dans le cerveau, disons que je fais un geste, je fais ce geste-là, quand vous le regardez, si vous êtes attentif, il faut qu'il y ait une certaine attention, dans le même lieu, dans votre cerveau, que dans le mien, ça veut dire le moteur, le centre moteur, juste prémoteur dans ce sens-là, vous avez des neurones miroirs qui vont décharger exactement dans le même lieu que les miennes, avec le même pattern temporel, qui veut dire que vous avez une connaissance crue, vivante, de ce que j'ai fait, et c'est à l'intérieur de vous. La question de pourquoi les enfants font ce que la petite a fait dans ta situation n'est pas un mystère. De mon point de vue, le mystère, c'est comment on peut éviter d'être la prisonnière du système nerveux des autres tout le temps, en fait. Ça, c'est une autre question, je n'ai pas le moment de rentrer là-dedans. Mais ça veut dire le suivant, que notre bébé là, avec le loxy, avait aussi les sensations suivantes, que, je vais le dire comme ça, que quand le nurse fait ses actes, le bébé va faire ses actes. Et dans ce... Quand la nurse fait ça, qu'elle a fait, ça, le bébé va faire cesser une sorte d'ombre de tout ce qu'elle a fait. Il ne faut pas que je répète tout ça. Ça veut dire qu'il y a un monde parallèle dans le sens de ce qu'a fait l'autre. OK. Ça, c'est la musique. En fait, ce qui est étonnant, c'est... Étant donné que c'est, comme j'ai dit, c'est un rituel qui est assez régulier, c'est refait tous les jours. Le fait qu'il y a quatre entraînantes, je ne dois plus utiliser ce mot, hein, soignantes, quatre nurses, de dire simplement que cet enfant est forcé d'apprendre quatre variations de cette symphonie, qui est archi simple à faire. Mais en fait, la vie du bébé, dans son expérience, c'est effectivement polyphonique et polyrythmique. À plusieurs niveaux, à tout le temps, il n'y a aucune raison de penser qu'on ne peut pas emmagasiner ça et en fait que ça va servir comme base des représentations de comment c'était d'être avec les autres ou d'être dans le monde. Dans ce sens-là, et c'est archi-répétitif en fait. C'est très répétitif. Ça a l'air complexe. Mais quand il s'agit les tempos et les rythmes et certaines lignes mélodiques, même s'ils sont gestuels, c'est archi simple de l'apprendre. Mais il y a aussi cet arrière-plan de l'identification qui est accompagné avec toutes les autres choses à la fois. Maintenant, c'est où l'improvisation? C'est où on va laisser advenir les choses dans un rituel relativement bien rodé. Et je trouve que c'est ici où la spontanéité entre. Parce qu'en fait, même si ce rituel ne s'est jamais fait la même chose deux fois, chacun est très différent. Et ici, les grands moments de presque excitation pour les deux, j'imagine. Je parle de petites fluctuations, mais quand même. C'est probablement ici, à la fin de le poser de main. Là, quand il y a toujours une montée, une interaction entre les deux, là. Ça va être notre moment le plus intéressant où, pour la plupart, quelque chose nouvel peut arriver. Nouvelle ou une variation jamais rencontrée, mais dans le gamme de possible. Parce que ça veut dire qu'après qu'il y a une pause de main, ce bébé sait déjà qu'il y aura un avenir, on peut dire ça, un événement qui va advenir. Qui est soit un changement dans l'activité ou juste un changement dans la manière de cette activité est faite ou dans une autre partie du corps ou n'importe quoi. Alors, on a certains moments qui sont spéciaux, qui sont effectivement des moments, comme ce qu'on peut dire, de chaos, où il y a une fenêtre, quelque chose d'inattendu qui va changer l'avenir. Et maintenant, je voudrais parler de ça un petit peu. Je suis devenu de plus en plus fasciné par les moments où quelque chose advient. Et puis, je me dis que c'est assez spécial, étant donné que toutes les interactions mère-enfant et toutes les interactions analyste-patient ou thérapeute-client, n'importe, sont les bricolages, les improvisations, et c'est forcément le cas. Ce qui se passe, c'est que le théorie intéressant, qui est le plus convenable à ce qui se passe entre thérapeute et patient, les mères-enfants, c'est probablement une variation sur la théorie du chaos. Je dis ça parce que on ne peut pas prévoir dans la situation locale ce qui arrivera. Dans un bon traitement ou dans une bonne situation comme ça, en fait, personne ne peut prévoir ce qui arrivera dans les prochaines deux secondes. Quand il y a un silence dans une thérapie, le thérapeute ne peut pas savoir ce que va dire le patient, et si la thérapie n'est pas académique, si on peut dire ça, le thérapeute n'a aucune idée ce qu'il va dire jusque l'autre a fini. Il va composer son réponse sur place, dans ce moment-là, comme ici et là maintenant. Et il y a certains moments qui sont spéciaux. Mais en fait, si on sait ce que le patient va dire, ce que vous allez dire dans le moment qui vient, vous êtes probablement en train de traiter une théorie et pas une personne. Parce que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas savoir. L'une des choses que nous réalisons dans ces systèmes très complexes comme ça, c'est qu'ils sont à la base imprévisibles dans le spécifique. Et même si on sait qu'un jour, il faut que cette patient parle de, disons, leur mère, la manière dont leur père a fait ceci ou cela, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle séance ou quel moment pendant une séance et quelle forme ça va prendre. Ça reste imprévisible, par nécessité, parce qu'il y a trop d'improvisation tout le temps. Une des choses qui est fascinante par rapport à cette improvisation, c'est que quand on a un système assez complexe qui est celui de deux personnes, soit mère-enfant ou nurse-enfant ou thérapeute-patient, c'est que le système en soi crée des surprises qui adviennent. Et des surprises adviennent incroyablement souvent. Dans cette situation, en fait, c'était moins surprenant que normalement parce que c'était assez rodé, qui est important pour le système, ils ont place là. Mais quand même, si on avait une machine pour mesurer le surprise chez le bébé ou chez le nurse par rapport à ce qu'ils ont fait ensemble, même si le gain était comme ça et pas comme ça, il y aura une fluctuation de surprise, j'aurais dit chaque 19 secondes, quelque chose comme ça. Et c'est là où il y a la spontanéité dans le système, parce que c'est un système complètement ouvert, pas complètement, mais en grande partie ouvert. Ce qui se passe dans une thérapie thérapeute adulte par rapport à cette laisser advenir, c'est fascinant. Nous avons un groupe, j'ai commencé pendant l'année sabbatique à Boston, c'était un drôle de groupe parce que c'était 3-4 psychanalystes et 3 psychologues de mental, un pédiatre, etc. Nous avons se rencontré une fois par semaine le soir. Et un des éléments importants dans notre démarche, c'est que c'était relativement après qu'on a mangé, et puis on se connaît bien, on a des amis et tous sont des égaux. Il n'y a pas des évaluations, c'est l'opposé de la supervision dans ce sens-là. On peut vraiment être honnête qu'on n'est jamais dans cette supervision. Et puis, non, parce que là, il y a notre agenda, il faut qu'on soit gradué ou approuvé, ou, etc. Et ça, c'est important, on ne peut pas négliger ça. L'autre chose, c'est que nous avons toujours bu beaucoup de bons vins rouges avec du fromage pendant ces séances. Et la question était en fait de voir qu'est-ce que c'est le mécanisme de changement pendant ces séances. Non, mais parce que c'est une question qui reste mystère. Pourquoi les gens changent et le mécanisme de ça, c'est quoi dans le micro? On a pris... Effectivement, on était beaucoup influencé par notre micro-analyse de comportement mère-enfant, qui était à ce moment appliquée dans un sens à cette situation de psychothérapie. Puis, un des thérapeutes a commencé à parler d'une séance qui est arrivée pendant les semaines précédentes. Et une de nos questions, c'est est-ce qu'il y avait des moments où vous avez pensé que il y a quelque chose peut-être qui va changer, ou il y a une chance, etc. Pour le bon ou le mauvais, n'importe. Qui a peut-être, dans un sens, préjugé cette manière de voir les choses dans les moments de chaos spécial, mais quand même, c'est ça, c'est clair que c'était comme ça. Ce que nous avons trouvé, après qu'on a beaucoup réfléchi, on a demandé un tas de petites questions par rapport à ce que c'est juste après, qu'est-ce que c'est le sentiment de thérapeute? Est-ce qu'à ce moment, le thérapeute avait un sens de changement d'idée, d'activité, changer la position, faire n'importe quoi, parce qu'il y a quelque chose qui commence à arriver? Nous avons réalisé qu'il y avait assez souvent les moments, normalement il y a des moments, oui, où on ne sait pas exactement ce qui est. Toute une série de moments qui sont relativement ce que dit le patient, ce que dit le thérapeute, un silence, un autre silence, etc. Les choses comme ça. Et tout à coup, et ça c'est la partie intéressante, tout à coup dans ce processus de balader dans une manière un peu bricolée, il arrive des moments très chargés où la situation intersubjective entre les deux, la nature de leur contrat et qu'est-ce qui se passe ici maintenant entre nous et qu'est-ce que ça implique pour qui nous sommes ensemble en train de faire quoi, etc. Des questions comme ça. Et on a appelé ça les now moments, les moments urgents, ou je ne sais pas vraiment la meilleure traduction. Ce qui est fascinant dans ces now moments, qui n'est pas très différent que ces moments-là à la fin de le poser de main, c'est que le thérapeute et la patiente, les deux, entrent dans le moment présent complètement. Normalement, les thérapeutes ne sont pas complètement dans le moment présent. Si vous avez une attention flottante, par définition, vous n'êtes pas dans le présent. Vous avez un pied dans le présent. Le patient aussi, il est en train de bricoler, il ne sait pas exactement complètement, il ne fait que à un moment, quand le système risque de changer, que quelque chose de nouvel va arriver, les deux ont des deux pieds dans le moment présent, et c'est très prenante comme une situation. Il y a toujours une montée d'angoisse chez les thérapeutes, parce qu'en fait, ils réalisent que c'est comme un moment de vérité, où il faut agir à... Parce que ça, dans ta sens là, on a laissé advenir quelque chose grâce à cette improvisation. Quelque chose est advenu, puis on est en train de considérer avec beaucoup d'angoisse, et puis il faut prendre position relative à ça. Nous avons réalisé que c'était des moments absolument difficiles et une des caractéristiques qui le rend plus dramatique que cette situation-là, c'est que le thérapeute ne sait pas quoi faire. Quand le thérapeute est honnête, il ne sait pas quoi faire. Parce que le moment est trop spécifique et trop inattendu qu'il y a n'importe quoi dans son théorie qui peut lui dire quoi faire. On peut lui donner les guides directrices, mais exactement ce qu'il va faire est complètement à lui à bricoler sur place. Puis, qui veut dire que c'est une créativité, une inventivité, côté du thérapeute, côté du patient, dans le même sens. Puis, parce que je me demande ici, après disons que le nurse a posé le main, et probablement elle a en tête qu'elle va, disons, nettoyer les bras maintenant, après les jambes, je ne sais pas quoi. Mais ça peut arriver que pendant ce moment-là, quand ils ont fait une petite seconde d'un regard mutuel, ça a déclenché ou emballé le système un peu plus haut, un peu plus différemment, et ça va amener vers un petit moment de jouer ensemble face à face, qu'elle acceptera parce que c'était... qui veut dire qu'elle ne peut pas prévoir non plus. Mais c'est une situation avec moins d'angoisse. Dans une situation psychothérapeutique, ça peut être assez angoissant et on ne sait pas quoi faire. Mais c'est des moments fantastiques parce que les changements dans une thérapie en général arrivent à ce moment-là. Pas tout, mais en grande partie. Et aussi, c'est un moment propice pour une interprétation, si on veut le faire, mais il ne faut pas le faire non plus. Il y a des autres manières d'agir qui marchent aussi bien qu'un peu comme ça. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une psychanalyse, c'était maintenant pendant 2 ans, c'était par une femme psychanalyste, et c'était une femme, la patiente. Et puis, après un moment où la patiente a commencé à dire ça, pendant quelques séances avant qu'elle se sent un peu isolée de ne pas voir le visage du thérapeute, elle ne sait pas ce qu'elle fait derrière, même si elle dort, etc., etc. Des choses habituelles. Un jour, non prévu, elle a dit, j'en ai marre de ne pas voir, je vais m'asseoir, je le fais maintenant. Elle a assis, elle a regardé le thérapeute dans les yeux. Ça, c'est un now moment. Ça, c'est un moment. Le thérapeute peut se cacher et peut fuir ce moment. Mais en général, on fait ça avec une utilisation inauthentique de technique. On peut dire, mais qu'est-ce que ça vous fait penser? Dieu sait quoi, on peut être silente, ou on peut demander qu'est-ce que vous voyez, ou pas des questions archi-stupides, qui en fait empêchent une rencontre créative, inattendue, authentique, qui a la signature de l'authenticité de ce moment-là. Ce que cette thérapeute a fait, qui pour nous était un moment de rencontre idéal dans cette situation d'imprévu, après un advenu, etc., et un moment de considération, c'est que la patiente est en train de le regarder, elle regarde le patient, lentement, son plan, bien sûr, elle a laisser son visage devenir inconsciemment, intuitivement. Un peu parce que j'ai beaucoup questionné exactement ce qu'elle a fait. Son visage est devenu un peu plus doux. Elle a commencé un petit sourire, pas un grand sourire du tout, juste quelque chose de subtil. Et elle a dit, avec une certaine chaleur d'expression, elle a dit « Hello ». Ça, c'est un moment de rencontre après un de ces moments. C'était quelque chose qui ne peut pas exister dans la théorie, qui ne peut pas être planifié en avant, mais comme vous pouvez bien imaginer, après qu'elle a dit hello, tout simplement comme ça, la nature et la tonalité de la thérapie a changé radicalement. Parce que pour la première fois, ou pour la fois la plus convaincante, la patiente a réalisé que le thérapeute était vraiment à sa côté, ouverte à eux, prête à l'entendre et prête d'aller avec elle comme accompagnant, etc. Des choses comme ça, qu'elle n'a pas cru au même degré avant. Et ça a beaucoup changé et qui était curieux. Il ne faut pas discuter ces moments après. Le magique était fait dans le moment sans que cela soit même verbalisé. Et c'est comme ça aussi dans ces situations parents-enfants où il ne faut pas verbaliser non plus. Bon, je vais juste dire un petit mot autre parce que je trouve que tout ça tombe directement de cette question de laisser advenir, considérer et prendre position. C'est ça met une importance, un focus sur le ici et le maintenant dans une manière incroyable. Parce que si ces moments sont si importants et si beaucoup des changements, les sauts dans la qualité de quelque chose. Il est sauf dans l'organisation d'un système qui est mutuel, dépend sur ces moments-là. Il nous faut comprendre mieux qu'est-ce que c'est le moment présent. Et une des choses qui m'a fasciné quand j'ai réalisé ça, grâce à des choses avec les bébés aussi, avec ces adultes et thérapeutes, c'est que notre conceptualisation de qu'est-ce que c'est le moment présent sont nulles, presque. Il n'y a que des philosophes qui ont vraiment posé les questions dans une manière importante et sérieuse de qu'est-ce que c'est le présent. En psychanalyse, souvent, le présent n'existe pas. C'est curieux, parce qu'il y a toujours l'après-coup, où les choses sont mises en forme. Et ce qui se passe maintenant, qui est le coup, on ne parle jamais de coup. Il y a le coup et le coup dans l'après-coup. C'est le moment présent où on vit quelque chose. Et en fait, il n'y a que dans le présent qu'on vit la vie. Même un souvenir est quelque chose qui arrive dans le moment présent. Ce n'est pas quelque chose dans le passé, c'est simplement une référence dans le passé. C'est quelque chose qui arrive chez vous maintenant. Également une anticipation, c'est maintenant que ça arrive. Même l'après-coup, même si la référence c'est d'une après-coup précédente et un coup perdu, mais quand même, le moment de mise en place de l'après-coup, c'est un moment présent. On ne peut pas l'échapper, c'est que ça. Et on n'a pas un système pour le comprendre. Et dans ce sens-là, c'était extraordinaire que Jung, en fait, a mis cette emphase sur l'ici et le maintenant, parce qu'en fait, c'était exactement ça, mais il n'était pas allé assez loin, parce qu'il y avait des autres choses à faire, et c'est important. Mais bon, je crois que c'est un bon moment d'arrêter, parce que ça peut nous laisser... de temps pour une discussion. Je voudrais juste pour résumer en deux mots que je trouve qu'il ne faut jamais oublier que notre boulot ou celui de quelqu'un qui travaille avec les bébés, c'est fondamentalement des improvisations autour des thèmes qui sont relativement bien connus, et c'est dans ces improvisations que les choses changent. Il faut que nous apprenons, comme thérapeute, aussi bien comme soignant du bébé, de laisser advenir les choses et de savoir, en fait, quand quelque chose risque de changer le cours des événements. Bon. Merci.